Nouveau numéro de La Chose Commune, deuxième partie autour de la question des toilettes sèches. Et pour en discuter, mon invité de la semaine dernière est toujours là, Valérie Boyer, bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour à tous.
Voilà. On continue avec vous, avec Capieco, pour parler assainissement écologique. Et cette semaine, on va s'attarder plus sur la question des événements éco-responsables, puisque c'est actuellement le cœur, le gros de votre activité, si j'ai bien compris.
Alors oui, aujourd'hui, c'est vraiment le gros de l'activité. Je tourne sur des événements extérieurs, sur toute la région, sur la Sarthe, jusqu'à Paris. Voilà, les organisateurs ont la volonté de vouloir avoir une image éco-responsable de leurs événements. C'est pour cela que les toilettes, les sanitaires en font partie.
D'accord. Donc vous avez toute une gamme de toilettes sèches pour ces événements, ce type d'événements. Est-ce que vous pouvez nous les présenter ? Est-ce que déjà sur cette gamme-là, il y a des choses qui sont, on va dire, présentes dans tous vos toilettes, notamment les matériaux ? On peut peut-être par commencer par ça. En quoi sont faites vos toilettes ?
Alors les toilettes sont faites toutes en bois. Voilà, bois. Bon, le toit est transparent pour amener la lumière également. Donc c'est l'image aussi que j'ai voulu donner à mon activité, c'est-à-dire d'avoir un aspect le plus naturel possible. Donc contreplaqué en peuplier déroulé et puis reverni pour la tenue dans le temps. Et puis après, tout. Enfin, voilà, de l'inox, de l'alu pour les angles de renfort et le toit. Voilà.
D'accord. La semaine dernière, vous parliez de... Ou alors, je ne sais plus si c'est en préparant l'émission, vous parliez aussi de mélèze et de Douglas. Alors, est-ce que c'est des matériaux que vous utilisez aussi pour les toilettes ?
Alors, le mélèze et le Douglas, je les utilise dans les PMR pour faire mes angles. Bon, ça, c'est voilà, des cornières en mélèze. Par contre, oui, j'ai parlé de bois noble, c'était par rapport à mon copeau. Moi, je souhaite... les copeaux de bois sont très, très importants. La qualité du copeau est importante. C'est soit du résineux Douglas ou mélèze, ou sapin éventuellement, et un peu de chêne de châtaignier, mais que des bois nobles non traités pour justement avoir un compost de qualité.
D'accord. Du coup, la sciure ou le copeau de bois est si important que ça dans le compost ? Pourquoi, du coup, cette...
Alors, le copeau de bois est effectivement très important par rapport à mon type de toilette sèche, puisque c'est pour de l'événementiel. Donc en fait, dans mon récipient, je mets un lit de copeaux et après, chaque personne, chaque visiteur de mes toilettes vient remettre par-dessus ces matières, donc le copeau. Et le copeau, effectivement, est hyper important puisqu'il viendra bloquer l'humidité. Il va absorber et en même temps, en absorbant l'humidité, il absorbe l'odeur. Donc c'est pour ça que des toilettes sèches, souvent les gens quand ils rentrent, ils sentent le bois, mais pas du tout d'odeur de ces endroits-là. Voilà, ouais. C'est une idée préconçue.
D'accord. Donc les résineux ont une capacité d'absorption de l'humidité plus importante que d'autres types de bois ?
Alors les résineux ont l'avantage, comme c'est des bois légers, d'être effectivement plus absorbants que des bois comme le chêne ou le châtaignier. Enfin, les bois exotiques sont à exclure. D'abord, c'est pas très écologique d'utiliser ce type de copeaux ou de sciure. Et pour les bois locaux comme le chêne et le châtaignier, c'est des bois qui sont de classe 4, donc denses et ont du mal à absorber.
D'accord. Et petite précision, du coup, ces copeaux, en fait, le bois, vous le trouvez où ?
Alors déjà, je travaille le bois, personnellement, puisque j'ai ma menuiserie. Et après, avec des collègues, des voisins, j'essaye de voir avec eux s'ils n'ont pas certains copeaux qui m'intéressent, en fait, ce copeau un peu de sûr, de ces bois non traités pour moi. Puisque mon activité est en pleine croissance, j'ai besoin de plus en plus de copeaux.
D'accord. Et donc ça, vous les récoltez autour des scieries et des menuiseries locales ?
Menuiserie essentiellement, puisque les menuisiers vont faire des meubles, ils vont faire des escaliers, donc ils vont faire du rabotage. Et une scierie, c'est de la sciure. J'utilise très très peu de sciure, parce qu'en fait, la sciure, c'est de la poussière de bois. Et la poussière de bois se compacte de trop et on peut... Enfin, fait un mauvais compost, en fait.
D'accord. Très bien. Alors, on peut revenir sur cette gamme de toilettes sèches. Alors, quel type de toilettes sèches vous proposez ? Des toilettes hommes, femmes ?
Alors,
mixtes, on va dire ?
Oui. Femmes, forcément, puisque en général, elles préfèrent avoir leur propre sanitaire. Après, des mixtes qui permettent d'élargir la gamme avec aux hommes et aux femmes. Les PMR, les toilettes pour les handicapés. Après, j'ai mes urinoirs ouverts, en fait, que j'installe surtout sur des événements sportifs. Depuis cette année, je viens de créer des cabines d'urinoirs, hein, donc aussi bien hommes que pour des femmes, puisque l'évolution fait que on a tendance, enfin pour l'hygiène, de pouvoir dire aux femmes, vous pouvez utiliser une urinette ou un pisse-debout, voilà le nom commun, pour pouvoir uriner comme des hommes. Alors, l'idée fait sourire souvent, mais c'est hygiénique, c'est plus rapide, il n'y a aucun contact.
D'accord. Sur cette question-là, justement, des urinoirs pour les femmes, la fameuse urinette, est-ce que vous la fournissez ou est-ce que c'est aux gens de l'avoir sur eux ?
Alors, il y a deux solutions. Moi, j'en fournis, elles sont en carton recyclé, jetable, donc usage unique.
Mais compostable, du coup ?
Et compostable. Et ensuite, il en existe en silicone qui sont nettoyantes, enfin à nettoyer, je veux dire. Aujourd'hui, je n'ai pas franchi le pas d'en avoir avec moi, mais peut-être que demain, j'en fournirai, effectivement. Et dans ce cas-là, certaines femmes ont déjà ce type d'urinette.
D'accord.
J'en ai croisé plusieurs qui m'ont dit, ben voilà, ça se présente comme ça. J'en ai chez moi, j'en ai dans mon sac à main.
D'accord. Et du coup, justement, ce type d'équipement, on va dire d'urinoir pour les femmes, c'est que vous avez un retour, vous, des utilisatrices ?
Alors, j'ai fait deux tests grandeur nature l'année dernière sur deux courses à pied, deux trails. Le trail de Saint-Gervais-la-Forêt, le jour d'Octobre Rose, donc pour le cancer du sein, où j'ai fait tester pour la première fois cette cabine. Et donc, les femmes à 95%, celles qui ont testé, ont approuvé le système. Parce que c'était rapide, c'était un test positif. Elles ont trouvé que ce geste de ne pas s'asseoir leur convenait également. Donc voilà, il y a une position effectivement à avoir, une posture pour utiliser ces urinettes là. C'est la posture du bassin renversé. Et donc, ça se passe vraiment très bien. Souvent, c'est encore un a priori que les femmes ont par rapport à ça.
D'accord. Alors, ça peut paraître trivial d'insister un petit peu sur la question de l'urine, mais en même temps, y a une vraie réflexion derrière ça, parce qu'il y a un intérêt à récupérer l'urine séparée des autres matières fécales. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus ?
Oui, je peux vous en dire un petit peu plus. Les urines sont, comme elles sont riches en azote, phosphore et potasse, peuvent être réutilisées en engrais, alors que les matières fécales, en les séparant, voilà, les matières fécales, elles, on va faire de la matière organique pour enrichir le sol, lui donner de la structure. C'est deux choses vraiment complémentaires. C'est pour ça qu'on essaye au mieux de pouvoir séparer les urines des matières fécales, parce que les urines, quand elles sont mélangées aux matières, elles peuvent être porteuses de germes, alors que l'urine n'est pas porteur. Voilà.
Oui, l'urine, c'est stérile. Alors, normalement.
L'urine est stérile de germes. Par contre, vous pouvez retrouver des hormones ou des médicaments dans les urines.
D'accord.
Voilà. C'est pour ça qu'après, il faut hygiéniser aussi les urines pour pouvoir, disons que les matières médicamenteuses et hormones se trouvent neutralisées pour être réutilisées sainement dans les champs.
Oui, pour utiliser le pouvoir du phosphore et
phosphore, de l'azote. Phosphore, potasse et azote, voilà.
D'accord. Donc oui, on voit qu'il y a un intérêt à proposer ce type d'équipement, en tout cas de séparer les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, un petit peu les types d'événements qui font appel à vous ? Vous parliez du trail, vous parlez d'événements, on va dire, éco-responsable.
Oui.
Concrètement, est-ce qu'on est plutôt sur de l'événement culturel, d'événements sportifs ou les deux?
Alors j'ai des deux. Je fais pas mal de effectivement trail, marathon, triathlon où je suis présent. Après j'ai des festivals également qui commencent à s'intéresser à moi. J'ai un organisateur de festivals un peu partout en France qui souhaite que je l'accompagne sur 9 ou 10 événements répartis sur le territoire. J'ai également tout ce qui est brocante, fête des plantes et puis pour des particuliers, c'est les mariages aussi qui se développent.
Mariages en plein air, ce genre de choses.
Mariages plein air dans des petits châteaux avec Barnum, enfin voilà. Et ils veulent rester dans l'esprit nature et donc utilisent des toilettes sèches.
D'accord. Et est-ce que ces organisateurs-là vous en disent un peu plus sur leur motivation Est-ce que c'est un coût? Est-ce que c'est une question de purement, on va dire, de prise de conscience écologique?
Alors, il y a, c'est un peu varié. Il y a une histoire de coût, évidemment. Certains comparent les toilettes sèches et les toilettes chimiques. Et puis veulent aussi se
redorer le blason.
Redorer le blason, c'est voilà, je cherchais le terme. Il y a cette façon-là. Également, des organisateurs qui, au jour d'aujourd'hui, n'avaient aucun service et commencent à dire on nous le réclame tous les ans. Plutôt que de commencer à utiliser quelque chose qui existait déjà, on va tout de suite passer aux toilettes sèches et on vient me chercher. Voilà, tout
D'accord.
simplement.
Et donc, vous savez à peu près combien d'événements font appel à vous et ça représente quoi un petit peu en termes de pourcentage de couverture ?
Le nombre d'événements, j'ai arrêté de compter.
Ouais.
Je connais à peu près le nombre d'utilisateurs sur 2019. J'ai eu à peu près 80 000 visiteurs dans mes toilettes, dans mes sanitaires, ce qui représente une économie d'eau d'environ 560 mètres cubes.
D'accord.
Ce qui paraît déjà conséquent.
En sachant que l'utilisation, pour donner un ordre de grandeur et permettre aux gens de comprendre, une personne va utiliser combien de mètres cubes d'eau par an
Alors, une personne, on utilise environ une trentaine de litres d'eau pour les toilettes tous les jours, par personne.
D'accord.
Ce qui représente pratiquement un mètre cube d'eau par mois.
D'accord.
Ce qui fait à peu près entre 10 et 12 mètres cubes par an.
D'accord.
D'eau. Ça, c'est très important. Si vous regardez, chaque personne regarde sa facture d'eau, verra que, grosso modo, un quart de sa consommation, c'est les toilettes qui les utilisent.
Et donc là, vous économisez, enfin, le calcul que vous avez fait sur l'économie d'eau, vous pouvez rappeler le chiffre, c'est 800.
J'ai 80 000 personnes, ce qui représente 560 mètres cubes d'eau.
560, d'accord.
En équivalence, puisque là on est sur des événements extérieurs, mais pour donner un chiffre de ce qu'on, si on avait utilisé les toilettes à eau chez soi, voilà, ça représenterait cette quantité.
Oui, voilà. Et si on compare, du coup, ça fait c'est la consommation annuelle quotidienne de 60 à 60 personnes à peu près, quoi.
Exactement.
Ouais, ce qui est pas négligeable.
Tout à fait.
Et du coup, je suppose qu'il y a des économies d'eau, puis il y a aussi des quantités de matière qui sont récupérées. Vous avez des données, vous avez des chiffres par rapport à ça?
Sur la quantité de matière que je récupère moi,
oui.
Je récupère environ une vingtaine de mètres cubes de matière et de copeaux.
D'accord.
Que je composte en partie, ce qui paraît pas très important au vu de la quantité de personnes passant dans mes toilettes, en fait. Voilà. Si on compare avec le nombre de mètres cubes économisés.
Oui, bien sûr. Non, mais du coup, c'est intéressant de voir aussi que la question du volume... est intéressante, c'est-à-dire qu'un mètre cube de copeaux représente une utilisation, enfin de matière compostable représente beaucoup plus de passage et qu'un mètre cube d'eau.
Ah oui, tout à fait, bah, tout à fait. À l'ordre de comparaison, on va utiliser 700 pour une personne. Le calcul a été fait, c'est 700 litres de copeaux. Utilisé pour 12 mètres cubes ou 10 mètres cubes d'eau. Donc effectivement, le ratio est très très important. Et l'eau qui est utilisée, il est pollué, il faut le faire, faut le traiter, donc en station d'épuration en général, enfin comme c'est dans les villes. Et faut savoir qu'en station d'épuration, on va retirer les matières, on va l'assainir. Par contre, tout ce qui est petites molécules médicamenteuses ou hormones ne sont pas traitées dans les stations d'épuration. Ces matières-là, on va les retrouver dans les rivières. D'où aussi un souci, je dirais, de sanitaire des rivières et d'avoir des poissons ou des crustacés qui peuvent disparaître parce qu'ils se retrouvent pollués par ces médicaments.
D'accord. Et juste pour terminer, au niveau des coûts d'un toilette sèche par rapport à d'autres solutions d'assainissement temporaire, est-ce que y a une rentabilité aussi pour les événements à faire appel à votre service plutôt qu'à des toilettes chimiques ?
Je pense qu'on est à peu près dans les mêmes coûts. On va être honnête, c'est plus pour faire appel à moi, c'est une volonté de dire à coût équivalent, on amène une solution écologique, on donne une image éco-responsable à nos événements et on se lave un peu la conscience en disant on fait quelque chose de propre pour nous, quoi. Et aussi, ça commence à faire son bonhomme de chemin. On dit qu'on n'a qu'une seule planète et c'est bien aussi de commencer à y faire attention.
Oui, c'est une façon de faire un geste. C'est pas juste un discours de la part des événements aussi. C'est une façon de faire un geste concret, en fait.
C'est un geste concret. Les premiers qui ont commencé comme ça, c'était vraiment des écolos purs hein, qui ont vraiment fait avancer les choses. Et aujourd'hui, l'ensemble des organisateurs vraiment y voient un intérêt aussi bien, comme je disais tout à l'heure, d'image écolo, mais en même temps de dire ben voilà, on sait qu'on pollue et on veut vraiment amener une solution, une pierre au moins à l'édifice. En fait, j'essaye de faire passer déjà moi ce discours-là en ayant monté cette activité-là, c'était ma volonté d'amener ma pierre, mais les organisateurs aujourd'hui également.
On peut aborder en quelques minutes aussi d'autres solutions, on va dire, d'éco-responsabilité dans l'organisation d'événements. Vous proposez depuis peu de temps des poubelles de tri, oui. Des fontaines à eau raccordables au réseau.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui. Depuis 2 ans, j'écarte ma gamme. Voilà, l'ensemble, justement, la petite pierre que j'ai mise avec les toilettes sèches. Je me dis que la pierre, il faut que j'en mette une plus grosse. Et il y a 2 ans, j'ai réfléchi à des tables manches debout, déjà avec poubelle, pour éviter de retrouver des papiers partout quand on fait un événement. Ensuite, 2019, tout début 2019, ça c'est une réflexion de l'année d'avant, j'ai créé des fontaines à eau raccordables. Je me disais qu'il était quand même aberrant aujourd'hui d'amener des palettes de bouteilles en plastique pour donner à boire à un événement, alors qu'on peut, on a de l'eau déjà dans les réseaux qui est potable. Donc avec un gobelet, une gourde, ben voilà, on peut utiliser de l'eau de notre réseau. Ça, c'était dans un premier temps. Ça a été mis en place chez moi début 2019. Des organisateurs comme le Marathon de Tours ont déjà commencé à travailler avec moi sur cette image-là en disant on va raccorder sur les ravitaillements plutôt que d'amener, je vous dis, des bouteilles en plastique pour les coureurs. Donc ça fait son petit bonhomme de chemin. Là, je suis avec le marathon de Cheverny, où ils sont aussi intéressés. Le Macadam Blaisois est intéressé également par mon système. Donc voilà, je dis que ça va dans un premier sens, dans le bon sens. Et en 2020, je crée également des tables de tri sélectif, puisque Aujourd'hui, rien n'est trié ou pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est d'avoir une table ludique roulante pour emmener sur les événements où on puisse mettre les déchets compostables dans un premier bac, enfin dans un premier sac sur cette table. Tout ce qui est bouteilles et canettes métal dans un autre sac. Et puis, tout ce qui n'est pas déchets recyclables dans une troisième poubelle. Voilà, c'est un premier pas. Enfin, je souhaite que ce soit quelque chose qui devienne un geste naturel pour l'ensemble des utilisateurs.
D'accord. Du coup, pour un petit peu prendre un peu une vision d'ensemble, comme vous proposez, on va dire, des solutions à des événements, à des organisations pour être un peu plus responsable au niveau écologique, est-ce que... en même temps, vous observez une évolution du regard des gens sur cette question-là des déchets, alors en particulier des déchets organiques, où on sent qu'il y a quand même encore de grands tabous sur la question de nos matières, quoi. Est-ce que vous voyez, vous, une évolution du regard des gens ?
L'évolution se fait avec le temps, c'est long. C'est long, ça commence à avancer. Il y a trois ans, c'était encore tabou, les toilettes sèches, etc. Enfin, on en parlait très très peu. Qu'est-ce qu'on fait de ces matières-là ? On ne veut pas en entendre parler. Ça, c'est assez européen, je dirais, ou pays de l'Ouest, où on a un rapport à nos matières qui est... On veut les éloigner de nous alors qu'elles font partie tout à fait de notre vie. C'est en train de bouger, c'est en train d'évoluer justement parce qu'on en parle plus. On parle de plus en plus d'écologie, on parle de plus en plus de recyclage. Comme je vous disais tout à l'heure, je ne vous en ai pas encore parlé, mais je vais vous en parler. Aujourd'hui, quand tout ce que l'on consomme, 5% seulement nous sert. Tout le reste, c'est du déchet. Pour nous, c'est du déchet, que ce soit l'urine, les matières, enfin voilà. On pourrait imaginer que ces déchets-là puissent être valorisés, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, et pourraient enrichir quelque chose au niveau du sol, au niveau des plantes. Donc c'est en train de faire son bonhomme de chemin. Il y a des grands chercheurs qui pensent, qui réfléchissent à tout ça, qui font des analyses et qui essayent de faire évoluer les politiques, justement, on reparle des politiques, de bien leur expliquer qu'il y a des solutions qui pourraient amener, plutôt que d'aller chercher des éléments chimiques et pour enrichir nos sols et pour nous alimenter. Voilà. Donc c'est en train d'évoluer, c'est long, mais à force d'en parler, à force que les médias aussi en parlent, ça avance.
D'accord. Et est-ce que vous avez l'impression que ce travail de terrain que vous faites fait avancer les choses aussi ? Parce que on ne se pose pas des questions dont on n'a pas conscience, en fait. Est-ce que, du coup, voir des solutions, on va dire, différentes, innovantes, ça ne peut pas permettre aussi de faire bouger un peu les mentalités ?
Oui, nous, ça fait des années qu'on le fait. On n'est pas forcément pris au sérieux. Enfin, au début, on n'était pas forcément pris au sérieux en disant que c'est des lubies un peu écologistes, etc. Aujourd'hui, oui, le regard change puisque on voit des problèmes. On commence à vraiment mettre le doigt dessus. Il y a des soucis un peu partout. Donc, on commence à se rendre compte qu'il faut peut-être modifier notre façon de voir les choses. Et je pense qu'avec les années, on a fait un gros travail. Et on continue de le faire, du reste.
Très bien. On arrive bientôt à la fin d'émission. Pour finir, du coup, je voudrais aborder la question de l'assainissement domestique, puisque c'est aussi une activité que vous proposez. Je proposerai aux auditeurs un reportage la semaine prochaine, puisque ils auront l'occasion d'entendre une famille qui utilise des toilettes sèches chez eux. Mais pour préparer un petit peu les auditeurs, on peut peut-être évoquer rapidement cette question de l'installation de toilettes sèches à la maison. Qu'est-ce que ça nécessite d'installer des toilettes sèches chez soi ?
Alors, les toilettes sèches chez soi, c'est simple. Il n'y a pas de raccordement, donc pas de tuyau. Donc au niveau coût, il y a le toilette à acheter, fixé au sol, et puis avoir son bac à copeaux à côté, ou ce que je fabrique, c'est des, au niveau esthétique, ça ressemble à des toilettes à eau, sauf que la réserve d'eau, je la remplace par un bac à copeaux. Donc en fait, au niveau installation, c'est simple. Hein. Après, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? C'est plus la gestion qu'il faut avancer, c'est la gestion effectivement du compost derrière, quoi.
D'accord. Moi, j'avais une question. Du coup, est-ce qu'il y a un intérêt économique à supprimer un raccordement à l'eau et d'avoir des toilettes sèches à la place ?
Alors, économiquement parlant, je pense que on est à peu près équivalent en coût, puisque le toilette coûte à peu près le prix d'un toilette en céramique de bonne qualité. Le copeau, la valeur du copeau, si on achète du copeau, ça va valoir à peu près le coût de l'eau économisée. Je pense que ceux qui passent aux toilettes sèches, c'est plus dans une démarche intellectuelle, écologique, en disant qu'on veut faire un geste pour notre planète. C'est dans ce sens-là qu'on accepte de passer aux toilettes sèches. Voilà. Comme je vous disais aussi sur l'émission précédente, les toilettes sèches également, j'en vends. Plus, c'est dans une amélioration de l'habitat, en disant on refait une pièce supplémentaire, on veut amener, on fait un étage par exemple, une chambre à l'étage, on ne veut pas ramener l'eau
et
l'évacuation, c'est des gros travaux, c'est beaucoup plus lourd. Ou alors dans le sous-sol, après il faut un sani-broyeur, etc., ça fait du bruit. Souvent, c'est même la grosse contrainte, c'est le bruit des sani-broyeurs, il faut amener de l'eau aussi. Et donc dans ce cas-là, les gens basculent assez facilement vers le toilette sèche assez facilement. Souvent, c'est des gens qui ont un peu de terrain, donc ils font leur compost derrière, quoi.
D'accord. Oui, avec cette contrainte-là d'avoir à gérer les matières qui, sinon, passent à la chasse d'eau et c'est la collectivité qui s'en occupe. Là, quelque part, du coup, on gère ses propres matières, on gère sa propre création de déchets qui n'en sont plus vraiment.
Alors, exact, ça... mais... En fait, c'est pas forcément un souci, c'est-à-dire que quand on fait une démarche en disant on passe aux toilettes sèches, c'est une réflexion, je dirais, globale de l'ensemble de la filière que l'on veut. On s'approprie en fait nos propres déchets, on s'approprie notre façon de vision de ce que l'on veut demain pour la Terre, en fait, ce qu'on veut laisser. Et effectivement, ces gens-là optent facilement pour le compostage et après veulent bien utiliser leur compost pour mettre auprès de leurs fleurs, leurs arbres, voire leur jardin si c'est au bout de 2 ans.
D'accord. Et donc, en guise de conclusion, moi j'avais une dernière question par rapport à cette question, on va dire, de l'assainissement domestique. Quel changement serait nécessaire de mettre en place pour, on va dire, développer cette pratique à grande échelle ?
Alors, déjà, je pense que déjà, en France... si on peut parler comme ça, pour qu'on puisse utiliser de l'eau comme on la gaspille aujourd'hui, peut-être que l'eau n'est pas assez chère. Mais ça, c'est un autre souci, c'est un autre projet. Et là, ça, après, c'est un souci, je dirais, aujourd'hui, c'est un souci intellectuel. Il faut vraiment que les particuliers s'emparent de ce qu'ils veulent faire de leur propre vie, de leur propre matière, de leurs propres déchets. Il y a une grosse réflexion à faire, effectivement. Et après...
Une évolution des mentalités, déjà.
Une évolution des mentalités, c'est sûr. On accepte assez facilement les toilettes sèches sur un événement ponctuel. Aujourd'hui, on n'est pas tout à fait prêt pour l'utiliser tous les jours chez soi. Ça, c'est une contrainte. Donc, ça peut évoluer avec le temps, et je pense que ça évoluera avec le temps. Et également, pour ceux qui ont des petits jardins, c'est de proposer, effectivement, de pouvoir composter ou d'avoir un apport à un endroit du compost composte et pouvoir récupérer après le compost une fois qu'il a été maturé. C'est aussi une solution que j'envisage peut-être dans les années à venir, c'est de proposer un service d'apport volontaire dans mes composteurs que je vais faire pour la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine.
C'est-à-dire collectiviser, mutualiser les lieux où on peut déposer ces matières.
Aujourd'hui, on n'a pas d'endroit où on peut amener ces matières. Et ça, je pense que c'est un souci pour le développement.
Notamment en ville.
En ville, tout à fait, en ville, sur des maisons individuelles en ville, même à la campagne. Je pense que d'avoir un lieu où on puisse amener volontairement, comme on fait nous à la campagne, le tri volontaire, serait une solution au développement et à faire descendre les barrières également psychologiques de l'utilisation des toilettes sèches.
D'accord. Eh ben, merci beaucoup pour votre venue à la radio. Donc, je rappelle, vous êtes Valérie Boyer de la société Capieco. Merci pour le temps que vous avez consacré à cette question.
Moi,
j'invite donc les auditeurs à retrouver cette émission en podcast sur le site de la radio studiosf.fr à la page de l'émission La Chose Commune. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et en attendant, on continue à agir pour La Chose Commune.